Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment je suis devenue chercheur ? Voilà la question que se sont posées 20 scientifiques, parmi eux Nicole Ledoirin, Étienne-Émile Beaulieu, Frédéric Kaplan, pour n'en citer que trois, dont les témoignages ont été rassemblés dans un ouvrage des éditions Alvic par Julie Clarini. Son titre, Le goût de la science, comment je suis devenue chercheur. C'est donc aujourd'hui le thème d'Au fil des pages. 20 chercheurs, hommes et femmes, racontent la naissance de leur vocation, comment sont-ils devenus astrophysiciens, paléontologues, océanographes, neurobiologistes. Ils évoquent tous leur passion pour la science, leur goût de la science, pour reprendre le titre du livre. Tout au long de leurs témoignages, ils nous font partager leur enthousiasme pour la recherche. Avant d'être des scientifiques de renommée internationale, ils ont été, comme chacun d'entre nous, des enfants. La magie du monde a opéré sur eux, elle a nourri leurs rêves comme leurs interrogations. Ils n'ont pas oublié ces moments quand ils soumettaient leurs parents ou les adultes qui les entouraient à la batterie des questions d'enfants, commençant par pourquoi. Ainsi, Jean-Claude Amezen se demandait enfant pourquoi les étoiles brillent dans la nuit noire ? Où s'enfuit la mer quand elle se retire ? La couleur bleue est-elle bleue ou est-ce notre manière de percevoir la lumière ? La lumière est-elle bleue quand personne ne la regarde ? On voit déjà que le questionnement était assez élaboré. Comment ne pas être fasciné par leur capacité d'interrogation ? Alors, quelle curiosité particulière les habitait ? C'est effectivement la question centrale que s'est posée Julie Clarini, journaliste et productrice à France Culture, qui a choisi ici de s'intéresser plus aux hommes et de laisser cette fois de côté leur œuvre. Ces 20 chercheurs posent un regard tendre sur ces années décisives qui les ont conduits à consacrer leur vie professionnelle à la recherche scientifique. Leur récit nous révèle que leur parcours ne ressemble en rien à un destin tout tracé. Avaient-ils dès l'enfance une vocation pour les sciences ? De même, ils pensent qu'ils n'avaient pas de don particulier. Leur attirance pour les sciences fut davantage le fruit du hasard et des rencontres. Un cadeau de Noël, une rencontre, un musée, un mot ont parfois suffi à les éveiller au goût de la science. Un cadeau de Noël, c'est l'expérience de Jean-Marie Braun, aujourd'hui physicien des particules. Il reçut à 11 ans, comme cadeau de Noël, la boîte du petit ingénieur en électronique. Écoutons-le.
J'ai 11 ans. Peut-être 12, je ne sais plus trop bien. J'habite en Alsace, c'est Noël. Il faut dire qu'en Alsace, Noël, ou plutôt la veille de Noël, c'est vraiment exceptionnel. Il y a d'abord une pièce de la maison qui se retrouve mystérieusement condamnée, clé perdue en général. Il y a la famille qui naturellement se retrouve pour le souper. À la fin du repas, la chanson qui sort de la pièce fermée, la porte que l'on peut enfin ouvrir. Et dans la pièce, le sapin décoré, boules, bougies, guirlandes, une avalanche de lumière. Comment s'étonner que ça laisse une trace dans la tête d'un gamin de 12 ans ? Entre nous, c'est autre chose que des chaussures déposées devant une cheminée. Mais j'en oublie le principal. Le paquet, ou l'un des paquets qui était placé au pied du sapin, c'est là que tout a commencé. J'en suis certain. Une boîte pleine de trucs électroniques aux noms magiques, résistance, condensateur, transistor, diode, haut-parleurs et des dizaines de fils électriques. Avec ça, on devait être capable de construire des merveilles. Amplificateurs, détecteurs de lumière, clignoteurs et même un détecteur de bruit qui n'a jamais vraiment marché d'ailleurs. La boîte portait le nom de Electronic Engineer. Mais le plus important, en définitive, c'était le manuel d'instruction avec son livre théorique où le petit bonhomme curieux que j'étais alors apprit comment fonctionnait une résistance et un transistor, où il s'est familiarisé avec le principe de l'amplification et tant d'autres choses. Je n'ai aucun mal à m'en souvenir, je l'ai encore sous les yeux pendant que j'écris ces souvenirs vieux bientôt de 40 ans. D'ailleurs, il est toujours quelque part à la cave, facile à retrouver. Ce petit livre m'aura appris deux choses. Quelle que soit la question, il suffit de chercher un peu pour trouver la réponse, du moins une réponse satisfaisante. Et démontrer un truc ou un machin reste le meilleur moyen de comprendre comment ça marche. Bien sûr, cela ne garantit pas qu'on sache le remonter. Il y a toujours des pièces en trop à la fin.
Michel Brouet, grand mathématicien, petit enfant voulait être cycliste, chef d'orchestre, et crut longtemps qu'il n'était absolument pas attiré par la science. Mais un ami de ses grands-parents, un astronome, discutait avec lui régulièrement et n'a pas manqué de lui transmettre son goût pour la science. Étienne-Émile Beaulieu, découvreur de la pilule, enfant, restait, quant à lui, médusé devant une expérience du musée du Palais de la Découverte. Voilà donc leur témoignage sur leur petite enfance. Étudiants, c'est un livre, un professeur, une rencontre amoureuse qui les ont conduits à choisir des filières scientifiques. Pour Michel Brouet, mathématicien, ce fut la lecture de la théorie de la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein. Ce fut également pour lui la rencontre avec son professeur José Leite Lopez, et beaucoup de scientifiques témoignent dans cet ouvrage de l'importance de leur maître d'école. Les parcours scolaires n'ont pas toujours été brillants. Pierre-Henri Guyon raconte qu'il a eu son bac au rattrapage, mais que cela ne l'a pas empêché de mener une grande carrière scientifique. Jean-Marie Braun explique qu'il a choisi la médecine par hasard. Et puis, parfois, c'est simplement une rencontre amoureuse qui est à l'origine de l'engouement pour la science d'un jeune chercheur. Pour nous décrire le parcours compliqué, écoutons le témoignage de Nicole Ledouarin, biologiste, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences en 2005, qui nous raconte son parcours d'étudiante.
Mon intérêt pour les sciences de la vie date de la classe de terminale. À l'époque, on nous enseignait la physiologie humaine, la respiration, la circulation. Mais plutôt littéraire de formation, puisque j'avais étudié le latin et le grec, j'ai continué dans la direction qui était la mienne. J'ai passé le baccalauréat et je me suis inscrite en faculté de lettres. Puis, j'ai totalement changé d'avis. Les études que je suivais ne me convenaient pas, j'avais envie d'autre chose. Je me suis relancée dans une propédeutique et j'ai préparé une licence d'enseignement des sciences naturelles. L'agrégation obtenue, j'ai enseigné en lycée pendant 8 ans, mais je ne m'imaginais pas devant une classe toute ma vie. J'avais 28 ou 29 ans, 2 enfants, mais heureusement, quelqu'un m'aidait chez moi, ce qui me laissait malgré tout un peu de liberté et la possibilité d'envisager un nouveau changement de direction. J'ai donc décidé d'essayer la recherche et j'ai cherché un laboratoire d'accueil. Étienne Wolff, qui était professeur au Collège de France, spécialisé en biologie du développement, a bien voulu de moi. J'ai travaillé dans son laboratoire pendant 2 semaines de manière totalement bénévole. Je m'y rendais dès que j'avais du temps entre mes cours. C'était un sacré défi que de faire 2 métier en même temps, mais je l'ai relevé car mes travaux de recherche me captivaient. J'ai passé ma thèse en 1964, puis je suis devenue professeure dans l'enseignement supérieur à Clermont, puis à Nantes, avec une forte activité de recherche parallèle. Je crois que j'avais, je l'ai toujours d'ailleurs, l'enthousiasme nécessaire pour faire un bon chercheur. Car sans le goût de la découverte, ce métier peut vite sembler gratuit. Le monde tourne très bien, même sans nos questionnements extrêmement spécialisés. Il faut avoir la passion chevillée au corps.
Le goût de la science, c'est aussi un goût sans limite de la liberté. Le livre nous montre que la science n'est pas un monde fermé sur ses certitudes. Les faits objectifs n'ont en fait qu'une durée de vie limitée et ne constituent pas une énième strate de certitude. Les débats, les controverses sont animés, la confusion présente, la concurrence féroce. Les chercheurs jouissent d'une réelle liberté dans le recrutement de leurs collaborateurs, dans leurs initiatives, dans leurs choix scientifiques, si bien que le terme d'aventure correspond assez bien à la recherche. Cet aspect grisant qui réclame des efforts constants pour avancer est la condition fondamentale de la recherche. Cette liberté n'est pas toujours connue ou comprise des organismes financiers, des institutions ou des particuliers qui financent la recherche. Or, le travail d'un chercheur n'est pas un travail de commande. Jean Audouze, astrophysicien, dont les travaux portent sur la nucléosynthèse et sur l'évolution chimique des galaxies, nous dépeint le contexte de la recherche d'autrefois. Il nous raconte que les professeurs d'université insistaient auprès de leurs étudiants pour qu'ils deviennent leurs assistants. Ils étaient 4 en DEA lorsqu'il était étudiant et 2 sont restés dans l'astrophysique. Il s'est inscrit un peu par hasard et sur les conseils de son père. À propos de la liberté, écoutons-le.
De plus, je trouvais dans la recherche une condition que j'ai ensuite toujours recherchée à la liberté. Les gens qui n'ont eu de contact avec la science qu'à travers l'école imaginent que nous évoluons bêtement dans des lignes étriquées. Mais nous tenons les rênes, nous sommes maîtres des questions.
Pour expliquer l'attachement des chercheurs à penser librement leur programme ou leur domaine d'intervention, Julie Clarini précise dans son introduction.
Rappelons que les plus grandes découvertes scientifiques se sont faites sans avoir été pensées en vue d'une application quelconque. Ce n'est pas en essayant d'améliorer la bougie que l'on a inventé l'électricité. La revendication de la liberté de la recherche n'est donc pas une coquetterie, c'est une condition fondamentale. Le sentiment que cette exigence est bafouée assombrit l'avenir. À vrai dire, ce n'est pas le moindre des paradoxes français que de porter un tel respect à la science et de montrer une ignorance quasi totale des conditions de fonctionnement du creuset où elle se fabrique.
En 2005, les chercheurs se sont très largement mobilisés pour obtenir des crédits à la hauteur de leurs ambitions. Les médias ont relayé leurs inquiétudes et leurs revendications. La science doit revenir au cœur du débat démocratique. Moins d'étudiants choisissent la recherche comme voie professionnelle. Les disciplines scientifiques ne sont pourtant pas délaissées, mais certaines, comme l'informatique ou l'ingénierie, parce qu'offrant plus d'emplois, de meilleurs salaires, une meilleure visibilité sociale, sont plus attirantes auprès des étudiants. L'image de la science a aussi été cornée par l'ampleur des défis. Le nucléaire, les OGM, les manipulations génétiques. L'absence d'un contrôle absolu impossible, illusoire, peut engendrer la peur, nourrie de l'ignorance. Ces craintes ne peuvent être levées que par le travail des scientifiques. Le livre « Le goût de la science, comment je suis devenu chercheur » nous montre aussi que la science est source d'émotion pour ces scientifiques. Jean-Claude Amezen-Mestin, chercheur en immunologie, nous rappelle qu'elle est pour lui une très grande source d'émotion. Devant ces questions, son père lui disait les mots d'Einstein « Ce qui est incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible ». Son témoignage regorge de références littéraires et est assez philosophique. Étienne-Émile Beaulieu nous dit qu'il s'est souvent demandé si d'autres disciplines lui auraient apporté autant de plaisir. Ce qui l'intéresse, c'est le futur proche, l'émotion à venir, comme dans l'état amoureux qu'il compare à l'état d'esprit du chercheur. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer. Tous ces chercheurs sont avant tout des esprits libres, ouverts aux arts, à la littérature. Leur parcours, leur histoire familiale, leur formation en témoignent. Le livre « Le goût de la science, comment je suis devenu chercheur » a le mérite de nous faire comprendre les raisons de cette nécessaire liberté, condition sine qua non de la recherche scientifique ou non. C'est la même condition nécessaire en histoire, en sociologie et dans l'ensemble des sciences humaines. Dans ce contexte français de la recherche, l'ouvrage des éditions Alvic nous montre des chercheurs heureux dont les témoignages susciteront sûrement des vocations. Les titres donnés par chaque auteur sont autant d'invitations au voyage. Vous découvrirez l'endroit d'où nous sommes partis, trajectoire libre, portrait du chercheur en amoureux. Au fil des pages, vous invitez donc à prendre goût à la science, loin des éprouvettes et des tubes à essais, en ouvrant ce livre de témoignages gais et optimistes.